Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Samuel Bernard, Violette Voldoir, Caroline Bonin, réalisée par Alexandre Fougeron et mise en onde par Jacques Azubert. Florian Delorme est parti quelques jours en congé. Vous le retrouverez dans une semaine environ, le lundi 17 avril. En attendant, comme chaque vendredi, on vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec notre partenaire du Monde. Bonjour Marc Semo.
Bonjour.
On va parler ce matin de la Russie. Pour la première fois de son histoire, la ville de Saint-Pétersbourg a été la cible d'un attentat qui a fait 14 morts et 49 blessés dans une station de métro du centre touristique. En octobre 2015 déjà, soit à peine un mois après l'engagement militaire de la Russie en Syrie, un charter russe qui reliait l'Égypte à Saint-Pétersbourg avait été la cible d'une attaque revendiquée par l'organisation État islamique. Bilan 224 morts. Alors, quelles conséquences l'attentat de Saint-Pétersbourg pourrait-il avoir sur la politique du Kremlin? Deux semaines après les premières manifestations de grande ampleur depuis l'hiver 2011 en Russie, cette attaque pourrait-elle servir de prétexte pour museler les voix dissonantes? Et cette opposition émergente, rassemblée le 26 mars dernier derrière la bannière de la lutte anticorruption, constitue-t-elle une menace pour Vladimir Poutine? Enfin, après l'intervention militaire américaine hier soir contre une base du régime syrien qui constitue un véritable tournant dans le conflit, quelles conséquences à la fois en Syrie et sur la scène internationale? Cette frappe américaine qualifiée par Vladimir Poutine d'agression contre un État souverain va-t-elle complètement bouleverser les équilibres dans la région? Avec nous pour en parler deux invités. D'abord Françoise Dosset, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice d'études à l'EHESS et auteure de ce livre « Être opposant dans la Russie » de Vladimir Poutine, qui était paru en 2016 au bord de l'eau. À vos côtés, Arnaud Dubien, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur associé à l'IRIS et directeur de l'Observatoire franco-russe. Mais avant d'aborder toutes ces questions, place à notre retour d'eux en partenariat avec l'association des prix Albert Londres. Nous recevons ce matin Stéphanie Braqueuil qui revient du Kenya. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivaine, ancienne journaliste basée à Nairobi, la capitale du Kenya, où vous vivez depuis une douzaine d'années. Et vous publiez ces jours-ci votre premier roman, « Ligne de fuite » chez Jean-Claude Lattès, un roman à trois voix pour trois générations, celle de Henri, le directeur du chemin de fer franco-éthiopien qui relie la capitale Addis Abeba à Djibouti, celle de Maurice, son fils, et enfin celle d'Emma, sa petite-fille, qui va tenter de retracer l'histoire familiale et surtout de dénicher les fantômes du passé. Qu'est-ce qui a poussé une connaisseuse aguerrie de l'Afrique de l'Est, alors je rappelle que vous couvrez la région depuis une quinzaine d'années pour différents médias, à choisir ce sujet, la question coloniale, et ce terrain, l'Éthiopie et Djibouti?
Ça m'intéressait de, comme mon personnage principal, fouiller les fantômes du passé et de mettre en perspective les mémoires du présent, les mémoires individuelles et collectives en fait. Donc, ce roman est sur trois voies, comme vous l'avez dit, et c'est l'histoire d'Emma, une jeune femme qui, en déménageant la cave de son grand-père qui vient de mourir, tombe sur un album de photos où elle découvre son grand-père enfant dans un contexte colonial à Djibouti et où elle découvre la photo qui revient sur, enfin le visage qui revient sur presque toutes les photos d'une métisse dont elle ignore l'existence et ce qui va la pousser à aller chercher le long de ce rail entre Djibouti et Addis Abeba des témoins, des archives qui pourraient lui en dire plus sur ce qui s'est passé à cette époque. Et le choix de ces trois voix, c'était justement de pouvoir faire exister ce rail à différentes époques, donc en 1920, juste après la fin de la construction du rail, 1930-40-50, et puis aujourd'hui, qui signe la disparition de ce rail qui était le fleuron de la France coloniale.
Oui, voilà, c'est ce qui illustre peut-être le mieux le passage du temps, ce rail qui va bientôt céder la place à un TGV, construit cette fois par les Chinois. Donc en cela, ce train est un bon exemple des dynamiques anciennes et contemporaines en Afrique.
Quand on est sur la route entre Addis Abeba et Diredawa, on voit les deux rails qui se font face, en fait. Et le rail chinois, c'est un TGV, donc on parle plus de la même vitesse, pour le coup, 120 km/h par rapport à En gros, la vitesse maximale du train entre Addis et Djibouti, c'était 30 km heure. Et à un moment donné, le train construit par les Chinois écrase même l'ancienne ligne, qui en fait maintenant ne circule plus. Et elle avait déjà commencé à tomber en déshérence depuis plusieurs décennies, environ les années 70-80.
Mais ce nouveau train, il est déjà en service ?
Il est déjà en service, il est entré en service en janvier.
D'accord, et on voit un petit peu déjà ce que ça change dans le paysage en Éthiopie.
Alors, j'y suis pas retournée depuis, mais c'est pas le tracé n'est pas forcément le même. Donc, c'est ça aussi qui inquiétait les populations qui étaient le long de ce rail et dont les escales constituaient des points de commerce, notamment. Et à Awash, qui est une de ces escales, le buffet d'Awash était le restaurant où tout le monde s'arrêtait à l'époque et toutes les tables étaient toujours remplies. Il y a des photos de l'époque, les années 30. Haïlé Sélassié, même l'empereur d'Éthiopie, y allait régulièrement. Il avait sa propre chambre que j'ai visitée. Et maintenant, ce restaurant, il n'y a plus personne.
Je le disais, Stéphanie Braqueuet, vous avez couvert l'Afrique de l'Est pendant 15 ans, une région qui connaît aujourd'hui l'une des pires sécheresses de son histoire, conséquence du réchauffement climatique et du phénomène météorologique La Niña. 20 millions de personnes sont menacées de famine, selon l'ONU. Comment comprendre que des crises d'une telle ampleur reviennent ainsi de façon cyclique, vous qui habitez dans la région depuis un certain temps ?
Elles reviennent de plus en plus fréquemment. Après, il y a évidemment paramètres complexes, hein, toute une série de paramètres. Il y a évidemment le réchauffement climatique, la déforestation, le fait que la productivité agricole a baissé. Par exemple, en Éthiopie et au Kenya, les pluies depuis 2-3 ans avaient déjà baissé, ce qui avait donc fait baisser la productivité agricole et forcément fait monter le prix des denrées alimentaires, provoquer des exodes et donc faciliter ou en tout cas susciter beaucoup plus de conflits autour des ressources. Mais après, la situation est relativement différente au Soudan du Sud, par exemple, ou en Somalie, où là, clairement, la guerre joue un rôle principal, et notamment au Soudan du Sud, où depuis décembre 2013, une guerre civile affame les populations à cause de deux dirigeants qui ne veulent pas céder la place.
Rien qu'au Kenya, il y a 3 millions de personnes qui ont besoin d'une aide alimentaire d'urgence. Dans le nord du pays, le prix du maïs a augmenté de plus de 30% et il faut parfois marcher 10 à 20 kilomètres pour trouver de l'eau. Et la sécheresse vient également réveiller ou aggraver d'anciennes rivalités tribales. Le mois dernier, le nord de la vallée du Rift a été le théâtre d'affrontements sanglants qui est lié au contrôle des pâturages. L'armée a été déployée dans les régions de Baringo et Laikipia, au nord de Nairobi. Est-ce qu'il faut redouter, Stéphanie, des affrontements de plus grande ampleur si la situation ne s'améliore pas ?
C'est sûr que la sécheresse et le manque de ressources pour les pâturages notamment attisent les conflits. Après, on est dans une période électorale au Kenya. Les élections générales ont lieu en août. Et c'est un facteur extrêmement important dans le déclenchement de ces conflits. Alors, il y a deux endroits, en fait, où pour le moment, les conflits sont importants. Donc, vous avez mentionné Baringo, entre les Tugen et les Pokot, et qui s'arme aussi grâce à des politiciens qui jouent, qui font avancer, en gros, leur agenda personnel par rapport à cette élection.
Oui, ces tensions ethniques sont largement instrumentalisées par le politique.
Et à Laikipia, où bergers ont envahi des ranchs principalement détenus par des blancs et donc ravivé cette ancienne question coloniale, mais en l'instrumentalisant, puisque la question est plus compliquée. Il ne s'agit pas simplement de bergers dont le bétail n'a pas suffisamment de pâturage. Il s'agit aussi de politiciens qui achètent du bétail, et notamment, certaines sources disent que ce bétail sert aussi à blanchir de l'argent qui a été détourné, et ensuite à encourager ces bergers à envahir les ranchs pour aussi faire avancer leurs intérêts personnels et politiques.
Des élections en août au Kenya, vous l'avez dit, le président kényan Uhuru Kenyatta concourt pour un deuxième mandat de 4 ans. Je rappelle qu'il était poursuivi jusqu'en 2014 par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Donc aujourd'hui, il va devoir faire l'inventaire de son mandat. Il avait qualifié la corruption d'urgence nationale lors de son arrivée au pouvoir. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que la situation ne s'est pas vraiment améliorée, Stéphanie Braqueuet.
Voilà, alors ses ennuis judiciaires à lui se sont clairement améliorés puisque...
Les poursuites ont été abandonnées.
Les poursuites ont été abandonnées par la CPI, faute de preuves, mais avec la procureure Fatou Bensouda qui a souligné à maintes reprises que le gouvernement avait fait taire les témoins, en gros. Et Uhuru Kenyatta, le principal reproche que le peuple ou certaines voix au Kenya lui font, c'est cette corruption qui, selon les mots de John Gitongo, un défenseur des droits de l'homme et aussi qui a été à la tête de la commission anticorruption, n'a jamais atteint un tel niveau. Et d'ailleurs, au Kenya aussi, les Chinois construisent un TGV et la construction et la concession de ce rail a provoqué des polémiques et des controverses extrêmes parce que il y a des soupçons de détournement massif d'argent.
Donc il y avait une volonté politique qui avait été affichée par le président Kenyatta, mais en fait, en réalité, rien n'a été fait.
C'est compliqué. Il y a des intérêts et des lobbies et des mafias très importantes qui ont une main sur le pouvoir depuis des années et ça se nettoie pas comme ça.
Il y a un autre dossier essentiel, évidemment, qui pèsera sur cette élection, c'est la sécurité, qui constitue, pour beaucoup d'observateurs, le plus grand échec du président Kenyatta. Donc on se rappelle bien sûr des attentats du Westgate et de l'université de Garissa en 2013 et 2015, par les Shebab somaliens, qui ont largement entaché l'image du pays et contribué aussi à la morosité de la croissance, qui est portée en partie par le tourisme. Est-ce que ce sera l'un des principaux enjeux de cette présidentielle ?
Pas forcément, et en plus la situation s'est quand même beaucoup beaucoup améliorée depuis 2 ans, et c'est vrai que la dernière attaque de grande ampleur a eu lieu il y a tout juste 2 ans, en fait c'était le 1er avril contre l'université de Garissa. Et depuis, les services de sécurité ont quand même réussi à maintenir une certaine stabilité et en tout cas diminuer très fortement le nombre, en tout cas la menace Al-Shabaab, qui malgré tout, évidemment, reste permanente. On le voit en Somalie avec cette capacité à mener des attaques très complexes à Mogadiscio, même y compris dans le centre le plus sécurisé de la capitale somalienne. Mais au Kenya, il peut être plutôt crédité, pour le coup, depuis 2 ans, d'une relative sécurité.
Donc les relations entre l'armée kényane et l'armée somalienne se sont améliorées ?
Alors, l'armée somalienne, quand on dit armée somalienne, c'est un peu compliqué parce que c'est une armée en construction, reconstruction, typique d'un post-conflit où les dynamiques claniques jouent un rôle extrêmement important. L'armée kényane fait partie de l'AMISOM, qui est la force de maintien de la paix de l'Union africaine, et elle est présente principalement au sud de la Somalie, où elle était entrée pour justifier, pour en tout cas repousser la menace Al-Shabaab de son territoire, après plusieurs enlèvements d'Occidentaux. Et il n'y a pas forcément des relations avec l'armée somalienne en tant que telle, mais plutôt avec l'armée, par exemple, de l'autorité régionale au sud de la Somalie. Et l'armée, en tout cas le président Kenyatta, a répété qu'il n'était pas question de retirer l'armée kényane qui a subi pas mal d'assauts sanglants de la part des Shebab.
Et donc selon vous, le président Kenyatta a tout de même des chances d'être réélu ? Il reste encore assez populaire ?
Alors comme on le sait, les sondages sont difficiles à interpréter parfois, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il a en face de lui une opposition qui, même si elle essaye de se rassembler, n'a toujours pas désigné de candidat. Il a son vieux rival, on va dire, Raila Odinga, qui a été candidat malheureux à l'élection en 2007-2008, ce qui avait conduit à des violences post-électorales, et en 2013. Et pour le moment, il y a une interrogation sur la personne, en gros, qui va s'opposer à lui. En tout cas, le candidat principal de l'opposition qui va s'opposer à lui lors de ces élections.
Et vous commencez, je crois, un deuxième roman. Vous allez rentrer bientôt à Nairobi, au Kenya. Ce sera sur quel sujet ?
Ça va revenir sur Djibouti, mais travail toujours en progrès.
C'est encore en cours. Très bien. Bon, on suivra ça de près. Bon, un grand merci d'être passé dans notre studio ce matin. Stéphanie Bracuet, je rappelle votre roman « Ligne de fuite » est paru aux éditions Jean-Claude Lattès.
Merci.
Ah yeah, ah yeah, ah yeah, ah yeah, ah yeah.
La Russie a été à nouveau frappée lundi par un attentat terroriste dans son ancienne capitale impériale, Saint-Pétersbourg. Hier, 8 personnes soupçonnées d'être impliquées dans l'attaque ont été arrêtées à Moscou et Saint-Pétersbourg. Toujours pas de revendication à ce jour, mais une piste, l'auteur de l'attentat serait un homme originaire du Kirghizistan, plus précisément de la région d'Osh, dans le sud du pays, connu pour avoir fourni d'importants contingents de combattants à Daesh. Cette attaque survient alors que Vladimir Poutine fait face à d'autres difficultés. La renaissance en Russie d'une opposition que l'on croyait disparue depuis l'assassinat de Boris Nemtsov en février 2015. Le 26 mars dernier, des milliers de manifestants sont descendus dans la rue à l'appel de l'avocat et blogueur Alexei Navalny pour protester contre la corruption. Mais évidemment, on parlera aussi de la frappe américaine en Syrie de cette nuit qui rebat complètement les cartes sur la scène internationale. L'attentat de Saint-Pétersbourg sera-t-il un prétexte à un durcissement de la politique du Kremlin ? C'est notre sujet ce matin. Avec nous autour de la table toujours donc Marc Sémaux, notre partenaire du Monde, Françoise Dossé, directrice d'études à l'EHESS, et Arnaud Dubien, directeur de l'Observatoire franco-russe. D'abord, un premier tour de table sur ce spectaculaire revirement de l'administration Trump, qui a décidé d'intervenir hier contre une base militaire du régime syrien, 2 jours après l'attaque chimique de Khan Cheikhoun. Est-ce que cette intervention américaine est susceptible de fragiliser Vladimir Poutine sur la scène internationale ?
C'est difficile à répondre, mais en tout cas, c'est un clair message, c'est un clair avertissement à Vladimir Poutine qui, envers et contre tout, a continué et continue encore maintenant, on l'a vu hier au Conseil de sécurité, à soutenir le régime de Bachar el-Assad, y compris après l'utilisation de l'arme chimique. Mais je pense qu'il y a un autre point qui fait un peu la synthèse entre les sujets de discussion aujourd'hui, c'est que le Caucase russe est distant de la Syrie de même pas 800 kilomètres, à vol d'oiseau. Et la Russie est totalement un pays de première ligne. Cela explique aussi pourquoi la Russie est intervenue. Alors c'est vrai que la Russie est intervenue d'abord en soutien du régime. Elle a d'abord frappé les forces de la rébellion. Et ce n'est qu'après, et relativement marginalement, qu'elle s'est occupée de l'État islamique. Mais aujourd'hui, la Russie est une cible prioritaire pour l'État islamique. On l'avait vu avant le terrorisme djihadiste en Russie. C'était un terrorisme tchétchène qui finalement venait de problèmes internes, cette radicalisation d'une résistance nationaliste qui n'avait à la fin plus d'autre choix que de dériver vers le djihadisme. Aujourd'hui, c'est l'État islamique. Et avec ce réservoir important de combattants venant d'Asie centrale, on les évalue à 3 ou 4 000 sur le terrain. Et c'est très important, d'autant qu'il y a aussi des millions de ressortissants de ces républiques d'Asie centrale qui vivent à Moscou comme travailleurs plus ou moins clandestins.
Arnaud Dubien ?
Oui, je suis d'accord sur le fait que la Russie est effectivement, se voit et est objectivement un pays de première ligne. Est-ce que ça fragilise ou pas Poutine ? Pas sûr. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que Poutine, en réalité, soit aussi fâché que ça de la frappe américaine. Ça permet peut-être de calmer un Bachar qui est tout à fait incontrôlable, y compris par les Russes, y compris peut-être même par les Iraniens. En tout cas, la rencontre Tillerson-Lavrov, qui doit avoir lieu la semaine prochaine, donnera une indication assez intéressante sur la façon dont peut évoluer la relation russo-américaine. Je crois qu'il faut prendre un peu de recul et voir comment ça va évoluer.
Françoise Dossé, ça pourrait fragiliser Vladimir Poutine auprès de son opinion publique, et on sait que la guerre en Syrie était jusqu'ici assez populaire.
Alors c'est difficile à dire pour l'instant parce que je pense qu'on est là au cœur un peu de l'actualité chaude et qu'il faut prendre un peu de temps pour analyser les choses avec recul. Ce qu'on constate, c'est que effectivement ces derniers temps, il y a eu quelques alertes du côté de l'opinion publique en Russie avec ces manifestations. Donc la question de savoir si la protestation peut prendre de l'ampleur, et peut-être que on voit souvent une articulation entre les événements à l'intérieur et à l'international, et peut-être qu'aussi ces événements à l'international sont l'occasion pour Vladimir Poutine de ressouder un peu sa population.
On va commencer par la politique intérieure russe. Je le disais en introduction, des milliers de manifestants qui sont descendus dans la rue le 26 mars dernier, dans 82 villes du pays. Une marche contre la corruption, après la diffusion d'une enquête qui révélait l'empire immobilier du Premier ministre Dmitri Medvedev, construit avec l'aide des oligarques. L'enquête a été réalisée par la figure numéro 1 de l'opposition, Alexei Navalny, et elle a été vue plus de 17 millions de fois sur YouTube. Je regardais encore hier. Alors, appeler à manifester contre la corruption comme l'a fait Navalny, c'est le meilleur moyen de rassembler, Françoise Dossé. C'est un thème particulièrement fédérateur en Russie.
Oui, c'est un thème fédérateur dans un contexte. Alors, en fait, je lisais un sociologue russe hier qui évoquait en fait l'affaiblissement de l'effet d'unité nationale qui avait suivi l'annexion de la Crimée. Et je pense, et donc il expliquait aussi ces manifestations par cette espèce de d'affaiblissement, de fragilisation de cette unité qui avait eu lieu autour du gouvernement en 2014, en montrant qu'en fait cette idée d'unité nationale fonctionnait beaucoup moins auprès de toute une jeunesse qui est quand même aussi un peu confrontée en permanence à des difficultés à la fois sociales, économiques et qui se mobilise. Voilà. Alors en même temps, ce sont des tout jeunes aussi qui ont manifesté à Moscou à l'appel d'Alexei Navalny et avec la question qui est de savoir comment transformer en fait ces mouvements en force politique. C'est-à-dire qu'on voit bien aussi qu'il y a très peu de structuration politique de ces mouvements de protestation.
Ces manifestations sont inédites par leur ampleur. On n'avait pas vu un tel rassemblement depuis l'hiver 2011-2012 et les soupçons de fraude qui avaient entouré les élections législatives et qui avaient poussé donc des milliers de gens dans la rue. Est-ce qu'on peut parler d'un réveil de la société civile, Arnaud Dubien, ou est-ce que ça vous paraît un peu exagéré ?
Il faut rester prudent. Effectivement, ce sont les manifestations les plus importantes depuis l'hiver 2012, avec plusieurs différences. Françoise Dossé l'a évoqué, des profils plus jeunes. À l'hiver 2012, c'était ce qu'on appelait la classe moyenne des grandes villes, des gens qui avaient plutôt réussi dans la vie. Aujourd'hui, ce sont des gens qui entrent dans la vie professionnelle, qui constatent l'absence d'ascenseurs sociaux, une corruption omniprésente. Et l'autre différence, c'est que cela concerne d'autres villes que Moscou. À l'hiver 2012, c'était essentiellement moscovite. Même à Saint-Pétersbourg, c'était plutôt limité.
C'est la question que je voulais vous poser. Comment expliquer que ça se soit, l'appel ait été entendu aussi loin ?
Il y a un vrai travail de Navalny et de ses équipes. Il y a le fait que la corruption est un phénomène pan-russe. Alors après, sur l'ampleur des choses, là aussi, attention, on parle de 60 000 personnes, c'est beaucoup parce que manifester aujourd'hui en Russie, c'est risqué. Donc les gens qui sortent prennent des risques. En même temps, je ne pense pas qu'on soit à la veille d'un printemps russe ou que cela implique une menace particulière pour le régime de Vladimir Poutine.
Oui, parce qu'après les manifestations de 2011, le pouvoir avait durci les lois sur le rassemblement, renforcé son contrôle sur les médias, procédé à des arrestations arbitraires qui donc effectivement étaient largement dissuasives. Est-ce que, selon vous, Françoise Dossé, ces mesures pourraient être encore durcies ? On a l'impression que pour l'instant, le pouvoir attend un petit peu de voir ce qui va se passer. Il n'y a pas eu de répression particulièrement sévère de ces manifestations.
Oui, alors depuis 2011-2012, en fait, le pouvoir, et même depuis le début des années 2000, en fait, le pouvoir joue toujours à la fois de la contrainte et de forme de compromis. Donc ça, c'est une constante sur l'ensemble de la période, c'est-à-dire d'un côté durcir effectivement la législation, empêcher les opposants de manifester, éventuellement même par la violence ou par la force. Donc ça, c'est un des aspects de la gouvernance, je dirais. Mais il y a toujours l'autre aspect qui est un aspect de compromis, essai de cooptation aussi des leaders d'opposition, enfin ou de certaines forces d'opposition. Et là, l'une des réponses, alors c'est aussi lié à cette conjonction de l'actualité, ce qui est intéressant, c'est que là, actuellement, les autorités sont en train d'organiser des manifestations de solidarité avec les victimes des attentats de l'attentat de Saint-Pétersbourg dans toutes les villes de Russie, dans les centres-villes, et notamment là où ont manifesté les opposants il y a presque 15 jours. Donc il y a cette idée aussi de réinvestir la place publique, mais maintenant au profit de la solidarité et l'union nationale autour des victimes.
Parlons un petit peu d'Alexei Navalny, cet avocat, blogueur qui maîtrise très bien les réseaux sociaux. S'est fait connaître pendant les manifestations de 2011-2012 pour protester contre la fraude aux législatives. Il s'est imposé comme l'un des chefs de file de l'opposition au Kremlin. En septembre 2013, il s'est même présenté aux élections municipales de Moscou et il a recueilli 27% des suffrages à la surprise générale, même s'il n'a pas remporté la mairie. Est-ce qu'il pourrait constituer une vraie menace pour le Kremlin ? Quel est son pouvoir de nuisance, Arnaud Dubien ?
Sur la menace, je suis un peu sceptique, Parce que dans la réalité sociologique de la Russie d'aujourd'hui, le potentiel électoral, supposé que les élections soient transparentes de cette mouvance, ne dépasse pas 20%. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, que ça plaise ou non, il y a une demande plus ou moins enthousiaste, pas forcément enthousiaste, mais en tout cas d'un pouvoir paternaliste. Et de ce point de vue-là, ce que fait Poutine en général convient à une majorité de Russes. Alors, Navalny a un profil intéressant. Il sort totalement des codes soviétiques, post-soviétiques. Il tape sur des sujets qui font mal, qui sont sensibles. La corruption, mais peut-être aussi demain, hier comme demain, les questions d'immigration, en particulier d'Asie centrale. Vous évoquiez les élections municipales de Moscou en 2013, auxquelles il a fait un très bon score. L'un de ses slogans était précisément de limiter l'immigration en provenance d'Asie centrale. Donc c'est quelqu'un qui, encore une fois, évoque des problématiques qui parlent au-delà de la mouvance libérale. Et de ce point de vue-là, son potentiel est plus important que la mouvance libérale traditionnelle. Pour rebondir sur ce que disait Françoise Dossé, depuis 2011-2012, en fait, on est dans un cycle répressif et régressif. La question aujourd'hui, c'est est-ce que les manifestations organisées par Navalny, est-ce que les attentats sont susceptibles de contrevenir à un scénario qui était assez discuté, y compris au Kremlin, d'un léger dégel économique, des réformes libérales, voire faire bouger un peu le curseur en politique intérieure. C'est ça aujourd'hui, je crois, l'enjeu.
Marc Sémo.
Et pour en revenir à Navalny, est-ce que lui représente un danger en tant qu'opposant plus fort pour le Kremlin que l'était par exemple Boris Nemtsov, qui a été assassiné et qui de fait aussi un des rôles que joue aujourd'hui Navalny vient aussi du fait que désormais c'est la seule figure d'importance de l'opposition. Mais justement, avec cette veine populiste, le fait qu'il est plus jeune, en même temps qu'il n'a pas l'expérience du pouvoir qu'avec quelqu'un comme Nemtsov. Ouais. Alors, si on fait la comparaison entre les deux.
Surtout, Navalny n'a pas été au pouvoir dans les années 90, comme l'avait été Nemtsov. Nemtsov, je le rappelle, avait été vice-premier ministre sous Boris Yeltsin, au cours d'une période qui est largement associée par la population russe comme une période extrêmement difficile de déclin, de chaos. Donc il a ce grand avantage, c'est qu'il est relativement neuf.
Là où on se demande, Alexei Navalny ne représente peut-être pas une menace si importante que cela, c'est que jusqu'ici, il a toujours écopé de peines de prison avec sursis. Est-ce que le Kremlin craindrait d'en faire un martyr, Françoise Dossé?
Oui, alors, en fait, avant de répondre à cette question directement, je vais revenir quand même à la nécessité de prendre en compte aussi ce qui se joue dans la société russe. Et ce qui a été frappant lors des dernières élections législatives en septembre 2016, c'est le faible taux de participation de la population. C'est-à-dire que environ 30% des gens ont vraiment participé à ces élections qui ont donné une très grande majorité au parti du pouvoir, mais enfin à partir d'un soutien électoral qui était quand même relativement limité. Et quand on regardait dans les bureaux de vote, c'était surtout les générations les plus âgées en fait qui se déplaçaient. Et donc c'est vrai qu'il y a une incertitude en fait sur quand même ce que pensent les 70% qui n'ont pas voté et les classes les plus jeunes. Et là on a quand même eu quelques indications ces derniers temps. Donc Navalny effectivement c'est un personnage important, très charismatique, susceptible d'unifier ces mouvances protestataires. Et ce qui fait sa force, qui vient d'être dit, c'est qu'il se situe à la croisée de plusieurs projets idéologiques. C'est-à-dire qu'il rassemble à la fois les libéraux et les démocrates. Il vient du parti Yabloko, qui est un parti libéral, mais il a aussi fréquenté les nationalistes et les xénophobes. Exclu de Yabloko pour cette raison. Donc c'est quelqu'un qui a réussi à se situer au carrefour de plusieurs projets politiques. En même temps, c'est ce que vous venez de rappeler, il est aussi sous une épée de Damoclès, je dirais, puisqu'il est, il a été poursuivi à plusieurs reprises par la justice russe. Son frère est en prison, on n'est pas certain qu'il puisse aller jusqu'au bout de ses projets politiques.
Et d'une certaine façon, le laisser participer à l'élection présidentielle de 2018, est-ce que ce ne serait pas aussi un moyen de légitimer le scrutin pour le pouvoir, de prouver que ce scrutin n'est pas joué d'avance, Arnaud Dubien?
On sait qu'à la fin de l'année 2016, au Kremlin, autour de M. Kirienko, qui a été nommé secrétaire général adjoint de la présidence en charge des questions de politique intérieure, qui est une figure historique de la mouvance libérale cooptée par le Kremlin, on sait qu'il y a eu ce débat-là. Il n'est peut-être pas clos. Et le débat, quel était-il? Est-ce qu'il faut, dans l'optique d'un quatrième mandat de Vladimir Poutine, redonner justement un mandat populaire puissant, avec un message puissant, avec une nouvelle légitimité? Et certains cercles au Kremlin estimaient justement que pour avoir cette légitimité, il fallait un scrutin, certes contrôlé, mais présentable et crédible. Et de ce point de vue-là, la candidature de Navalny, en l'absence d'autres candidats d'opposition réels, aurait pu avoir des avantages. C'est ce qui avait été fait à l'été 2013, au municipal à Moscou, lors d'un scrutin généralement considéré comme ouvert et démocratique. Maintenant, il y a beaucoup de gens aussi qui préfèrent ne prendre aucun risque, et c'est, je dirais, l'inclinaison naturelle du régime. Et dans cette optique-là, on rajoute des condamnations par sursis,
Mais avec cette crainte, comme oui. tu disais, d'en faire un martyr aussi. Donc on est obligé de jouer entre les deux tableaux.
Oui, tout à fait. Cette crainte de probablement d'en faire un martyr et la crainte de voir ses partisans descendre dans la rue. Mais en même temps, je pense qu'il y a aussi du côté des autorités la nécessité de redonner de l'intérêt pour le politique dans un contexte que j'évoquais d'affaiblissement de la participation. C'est-à-dire dans une élection, il n'y a pas d'enjeu, les gens vont pas se mobiliser. Et ça pose aussi un problème de dynamique politique. Et d'une certaine façon, à ce titre-là, Navalny est un bon opposant, c'est-à-dire dans le sens où il peut un petit peu durcir la situation politique pour redonner une dynamique de participation, tout en même temps en étant partiellement contrôlé.
En même temps, c'est difficile de savoir quelle est la véritable assise de Navalny. Est-ce que les gens sont sortis dans la rue pour lutter contre la corruption, pour protester? Il peut y avoir tout un tas de raisons pour la question de la récession économique. On peine encore à sortir de la crise. Donc, on a l'impression effectivement qu'il y a une renaissance d'une opposition assez vivace et en même temps, pas encore de traduction politique possible.
Si je peux répondre sur cette question, le paradoxe en Russie, je dirais, c'est la très grande popularité de Vladimir Poutine, toujours validée dans les sondages, mais en même temps...
Autour de 80%
toujours. Autour de 80%, ce qui est très important, mais en même temps, la présence de critiques permanentes dans la société, mais plutôt contre les dysfonctionnements de l'administration locale, donc la corruption, les problèmes scolaires, le problème du fonctionnement des hôpitaux, enfin voilà. Donc la critique est présente dans la société russe, c'est une société dynamique où les gens discutent et réfléchissent. Donc le problème, c'est comment va pouvoir monter en généralité politique cet ensemble de critiques. Alors, ce qu'on observe sur Internet est quand même important, c'est-à-dire, vous avez mentionné là ces millions de vues du reportage de Navalny, donc on voit bien qu'il y a des dynamiques en termes de circulation de l'information sur Internet qui montrent en fait la circulation de cette critique à des échelles qui ne sont plus seulement des échelles locales. Voilà. Donc ça peut aussi ensuite déboucher sur des phénomènes politiques.
Arnaud Dubien.
Sur la corruption, effectivement, c'est très spectaculaire. C'est millions de vues. En même temps, c'est un vrai sujet au quotidien pour les Russes. Et en même temps, il y a une forme d'hypocrisie qu'il faut bien relever. C'est-à-dire que les Russes sont choqués par la corruption, en même temps la pratique au quotidien et parfois dans des situations assez choquantes, dans les hôpitaux ou ailleurs. Donc c'est... comme le disait Françoise, effectivement, la société russe est une société complexe. La question aujourd'hui, c'est est-ce que ces sujets qui, par beaucoup, sont vécus comme non politiques, est-ce qu'ils ont une expression, une traduction ? Il y a une forme d'apathie, effectivement, une forme d'apathie entretenue par le pouvoir. Le souffle criméen est un peu retombé. L'un des enjeux et l'un des casse-têtes du Kremlin, c'est faire en sorte que l'année prochaine, pour un quatrième mandat, la participation présidentielle soit supérieure à 60 ou à 70%.
C'est toute la question. Donc, effectivement, cette échéance des élections présidentielles de mars 2018, vous le disiez, Françoise Dossé, une popularité de Vladimir Poutine autour de 80%. On est quand même étonné, effectivement, que l'image du président ne soit pas tellement écorné par les affaires de corruption qui touchent pourtant tout son entourage. Comment l'expliquer ? Est-ce que c'est Dimitri Medvedev finalement qui concentre les critiques ?
Alors je dirais que là aussi, c'est toujours assez paradoxal. Je renverrai vers les travaux de mon collègue qui s'appelle Gilles Favarel-Gary, qui a bien étudié ce phénomène d'usage aussi de la corruption à des fins politiques. C'est-à-dire que Vladimir Poutine utilise aussi les accusations de corruption contre son entourage pour opérer des remaniements, changer les personnels, etc. On le voit très bien au niveau des élites locales. C'est-à-dire que ces derniers temps, on a assisté à plusieurs arrestations de gouverneurs dans les régions russes pour des affaires de corruption, qui est l'occasion aussi pour l'administration centrale de renouveler son administration locale. Et d'une certaine façon, le thème de la corruption, ou l'outil de la lutte contre la corruption, est là aussi un instrument de gouvernance manié par l'administration présidentielle. Donc c'est ça toute l'ambiguïté, c'est qu'aussi face à des revendications là ou des critiques et des manifestations contre la corruption, Vladimir Poutine explique à sa population qu'en fait il est en train d'agir et qu'il va faire le ménage dans ses propres troupes. Donc c'est un jeu assez complexe entre le pouvoir et la société.
On l'a dit, le défi pour Vladimir Poutine est aussi sécuritaire. On va en venir à la Syrie, qui a connu cette nuit un revirement spectaculaire de la part de l'administration Trump.
On Tuesday, Syrian dictator Bashar al-Assad launched a horrible chemical weapons attack on innocent civilians using a deadly nerve agent.
Ce matin, le dictateur Bachar al-Assad a lancé une attaque chimique sur des civils innocents en utilisant un produit mortel. Il a tué des innocents hommes, femmes et enfants, et même des bébés, morts de manière brutale et atroce. C'est une attaque barbare. Ce soir, j'ai donné l'ordre de bombarder certaines zones en Syrie, en ciblant les lieux où ces attaques chimiques ont été lancées. Il n'y a pas de discussion possible quand il s'agit d'armes chimiques. Aussi, j'appelle toutes les nations à s'unir pour combattre ce bain de sang en Syrie.
Le président Donald Trump. Les États-Unis ont donc envoyé 59 missiles sur une base aérienne syrienne au nord-ouest du pays, une base du régime qui serait responsable de l'attaque chimique de Khan Cheikhoun qui a fait 86 morts il y a 3 jours. Alors Marc, c'est bon, on se souvient de la fameuse ligne rouge de Barack Obama qui avait finalement renoncé à intervenir après le massacre à l'arme chimique de l'été 2013. Cette fois, et de façon totalement unilatérale, le président Trump a décidé de frapper un grand coup. C'était totalement inattendu.
Absolument, mais revenons justement à Poutine et la Syrie. Parce que la question qu'on peut se poser quant à justement sa popularité, bon, au début, l'intervention en Syrie, qui a été un réel succès avec très peu de moyens, 5000 hommes, l'aviation, il a réussi à totalement renverser la donne et à remettre le régime en selle. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a dans l'opinion russe des critiques qui peuvent monter par rapport au risque d'enlisement et surtout par rapport au contre-coup terroriste? Alors à chaque fois, le régime a utilisé les contre-coups du terrorisme, c'était vrai surtout au début par rapport à la Tchétchénie, pour renforcer son pouvoir, mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où l'opinion, alors on est seulement au début, risquerait de dire, mais quand même, est-ce qu'on ne nous a pas mis dans une histoire dont on ne voit pas l'issue? Même si, évidemment, au tout début, c'est quelque chose qui est quand même très populaire, ce retour en grand de la Russie sur la scène internationale.
Arnaud Dubien, Françoise Dossé.
Oui, je crois que c'est la vraie question qui se pose après l'attentat de Saint-Pétersbourg. C'est-à-dire que l'intervention russe en Syrie a été justifiée jusqu'à présent par la volonté d'éradiquer le terrorisme à sa racine, en disant, voilà, on fait pas comme, justement, en prenant le contre-exemple de la France, en disant, voilà, on fait pas de la même façon, nous, on va directement éradiquer le terrorisme là-bas. Or, ce que montre l'attentat au fond de Saint-Pétersbourg, c'est que cette intervention sécuritaire et le tout sécuritaire ne protège pas non plus complètement la Russie de ce type d'attaque. Voilà. Donc, pour l'instant, on est un peu à chaud. Donc, c'est difficile de voir ce que ça va susciter dans la société russe. Mais c'est vrai que c'est la question qui se pose actuellement. Est-ce que ça va remettre en cause cette politique d'intervention militaire en Syrie?
Arnaud Dubien.
Oui, il faut être prudent, encore une fois. On ne sait pas comment la société va réagir. Mais il y a quand même deux choses qu'il faut relever. D'une part, la Syrie n'est pas l'élément le plus important de la popularité de Vladimir Poutine. Ça repose sur beaucoup d'autres choses. Et par ailleurs, la Russie a connu déjà beaucoup d'attentats, y compris sous Poutine, liés effectivement au Caucase, à la problématique tchétchène. Donc je ne suis pas sûr que ce soit un risque pour la popularité de Poutine. Ça pose d'autres questions sur la stratégie de la Russie, l'efficacité. Non, ce qui est intéressant aussi, c'est que pour la première fois à ma connaissance, mis à part l'Airbus le 31 octobre 2015, c'est qu'il y a un attentat de grande ampleur en Russie, sans aucun lien avec la problématique caucasienne. Donc il y a une deuxième filière.
Oui, parce que l'auteur, pardon, je vous interromps, l'auteur de l'attaque serait un homme de 22 ans, originaire du Kyrgyzstan, de la région d'Osh, comme on le disait un peu plus tôt, où beaucoup de combattants de Daesh seraient partis.
Donc il y a un deuxième front centra-asiatique sur lequel les Russes parlent depuis de longues années, ils s'y attendent depuis de longues années, et c'est devenu une réalité. Donc au-delà de la problématique caucasienne qui demeure, avec ses filières tchétchènes et gestanaises, il y a aujourd'hui d'autres défis sécuritaires qui vont se poser aussi en Asie centrale, parce que ces gens frappent la Russie, mais peuvent frapper demain à Bishkek, au Kazakhstan ou ailleurs. Donc le casse-tête sécuritaire post-soviétique de la Russie, ne fait que commencer.
Il serait au moins 7000 ressortissants de tout l'ex-URSS, dont environ 2900 Russes, à avoir rejoint les groupes djihadistes en Irak et en Syrie, selon les autorités russes. Et ce qu'on voit, comme vous le disiez, avec ce nouvel attentat, mais aussi avec les attaques de l'aéroport d'Istanbul et du club Reina, qui avaient été eux aussi commis par des djihadistes originaires d'Asie centrale, c'est que donc ces foyers djihadistes se déplacent du Caucase vers l'Asie centrale. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui de l'importance de ces nouveaux foyers terroristes qui se trouveraient essentiellement en Ouzbékistan et au Tadjikistan?
Une fois, la menace islamiste en Asie centrale, ce n'est pas nouveau. Il y a eu en Ouzbékistan, au Tadjikistan, le mouvement islamique d'Ouzbékistan, qui a ensuite migré vers les zones tribales du Pakistan. Mais cette menace-là, qui à l'époque était totalement distincte, évidemment, de la problématique syro-irakienne, existe de longue date. Là, il y a, ce qui est nouveau, c'est la connexion entre ces mouvances-là et l'État islamique.
Et en même temps, est-ce que cette menace islamiste dont on parle en Asie centrale n'est pas aussi amplifiée à la fois par le Kremlin, mais aussi par les dirigeants d'Asie centrale pour justifier le durcissement d'une répression contre des groupes qui constituent finalement la dernière opposition politique ?
Oui, enfin, le mouvement islamique d'Ouzbékistan en position politique, je trouve bien indulgente quand même. Non, il y a effectivement toujours une instrumentalisation, c'est assez classique, on l'a vu dans d'autres régions du monde, mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la menace bien réelle et que l'un des objectifs, au-delà du soutien du régime et de l'État irakien, c'est aussi de détruire sur place, là-bas, le maximum de gens, d'éliminer, pour qu'ils ne reviennent pas en Asie centrale ou en Russie.
Non, je parlais d'un amalgame possible dans les différents groupes islamistes dont certains passent effectivement à la violence et d'autres constituent de facto la dernière opposition qui existe, et je pense en particulier au Kyrgyzstan. Marc Semo.
Alors, jusqu'où peut aller maintenant le soutien de Vladimir Poutine au régime syrien? C'est-à-dire, vous-même, vous évoquiez tout à l'heure ce fait que Assad, et notamment avec l'emploi du chimique, énerve un peu les Russes. Assad qui dit on va reconquérir l'intégralité du territoire, ce que refusent les Russes. Sur le chimique, précisément, les Russes sont un peu obligés. C'était eux qui s'étaient portés caution et qui avaient contrôlé le démantèlement de l'arsenal chimique, donc qui avaient évité en 2013 des frappes massives à l'époque des Français et des Américains. Donc jusqu'où peut aller le soutien russe? Et surtout, est-ce que les Russes ne voient pas que le maintien au pouvoir d'Assad, qui ne peut pas gagner la guerre, est finalement celui qui crée le terreau pour un djihadisme qui devient de plus en plus dangereux, y compris pour la Russie elle-même?
Je pense que les Russes partagent le début de votre analyse, la deuxième partie pas forcément. La Russie fait l'analyse, que l'on partage ou pas, mais que l'État syrien en tant que tel doit être protégé, doit être sauvé. C'était au-delà du régime, c'est ce que disent en tout cas les Russes, c'était le but de l'intervention. Les choses ne se passent pas très bien et depuis déjà quelque temps entre Russes et Assad. Pour l'anecdote, ce sont les Russes qui ont empêché, qui interdisent à Assad de se rendre à Alep, par exemple, pour fêter sa victoire publiquement. Ce n'est pas rien. Quand Bachar el-Assad a dit « je vais reconquérir l'ensemble de la Syrie », les Russes ont, pendant quelques jours, suspendu leur soutien aérien. Il ne peut plus rien faire sans soutien aérien des Russes. Et par ailleurs, aujourd'hui, c'est extrêmement embarrassant pour les Russes, pour la crédibilité de la Russie et de Vladimir Poutine, de voir, au-delà des déclarations, des dénégations, que Assad, qui est censé avoir désarmé, a utilisé l'arme chimique. Donc tout ça est assez embarrassant. D'un autre côté, j'imagine mal les Russes repartir de Syrie, fermer les bases, enfin il y a eu tout un investissement stratégique lourd depuis 2015 et qui a vocation, je pense, à rester. En tout cas, les Russes vont faire en sorte de pérenniser cet investissement stratégique. Donc on verra la semaine prochaine, je pense, déjà avec les discussions Lavrov-Tillerson, comment tout ça va s'articuler. Encore une fois, au-delà des déclarations et à chaud, je n'exclus pas que ce ne soit pas une si mauvaise nouvelle pour ça, que ça pour les Russes, que cette frappe, que ça permette de ramener quelque peu Bachar el-Assad a la raison. Sur Assad, je crois qu'on peut prêter crédit aux Russes quand ils disent que ce n'est pas leur homme. Ils avaient une vraie relation avec Hafez el-Assad, qui était un homme de Moscou, avec une vraie relation avec les soviétiques. Bachar el-Assad, c'est le président, c'est l'héritier. Est-ce qu'ils sont... Je ne suis pas sûr que ce soit eux les plus accrochés à lui. Je pense que les Iraniens y tiennent plus que les Russes.
Mais ça représente tout de même un camouflet à l'égard de Vladimir Poutine, dont on a tant dit qu'il était devenu le maître du jeu syrien, qu'il avait retrouvé sa place sur la scène internationale. Est-ce que là-dessus, il n'est pas tout de même assez fragilisé?
Oui et non, effectivement, c'est un événement extrêmement fâcheux. Le comportement de Bachar, encore une fois, du coup, la Russie perd un peu la maîtrise du scénario, du tempo, et en soi, c'est fâcheux. Est-ce qu'encore une fois, c'est un coup fatal à la politique russe en Syrie et au-delà? Je ne suis pas certain. Beaucoup de choses vont dépendre du dialogue direct russo-américain. Ça crée de nouvelles conditions pour ce dialogue, c'est évident.
Vladimir Poutine va désormais devoir composer avec un président américain qui semble totalement imprévisible et qui est capable de prendre des décisions qui vont complètement à l'encontre de ses déclarations préalables, puisque Donald Trump marque ses mots, avait fait campagne sur davantage d'isolationnisme et avec cette idée de ne pas intervenir. Il avait critiqué la notion même d'intervention.
Absolument. Et probablement que cela perturbe en partie les Russes qui avaient misé au début sur Donald Trump. En restant néanmoins prudent, parce qu'on se souvient qu'après sa victoire, pendant 2-3 jours, les réactions russes étaient restées très prudentes. Mais ce qu'on voit, effectivement, c'est que Donald Trump, si on est optimiste, est un adepte, quelque part, du réalisme dans les relations internationales, qui voit la donne telle qu'elle est. Si l'on est pessimiste, et probablement à raison, on voit aussi que c'est un président américain extrêmement émotif, qui réagit aux médias, de ce qu'il voit à la télé, que probablement l'ampleur de sa réaction est aussi due au choc des images monstrueuses que l'on a vues de ces enfants morts sous les gaz neurotoxiques, et que ce caractère imprévisible peut aussi être certes un atout dans la relation internationale, mais c'est aussi un grand danger.
Françoise Dossé.
Non, je pense que c'est un point extrêmement important, c'est de savoir aussi c'est de relier cette question de la guerre en Syrie à la question des politiques intérieures et de qui a le pouvoir de décision, dans quelles conditions et comment. Et on voit bien que là, le pouvoir de manier ses armes et de bombarder, il est entre les mains maintenant aux États-Unis comme en Russie de chefs d'État qui ont alors dans le cas de la Russie en tout cas très peu de contre-pouvoirs et qui sont assez imprévisibles. Donc ce facteur d'imprévisibilité, je trouve est vraiment à prendre en compte, et à la fois du côté de Trump et aussi du côté de Vladimir Poutine, puisque lui n'est pas contraint ni par son Parlement, ni par son Sénat. On ne sait pas très bien comment il va réagir à tout ça.
Alors sans surprise, les alliés de Washington, comme Paris, Londres ou encore Ankara, soutiennent pleinement cette frappe, tandis que l'Iran condamne fermement et estime que cette action ne fait que renforcer les terroristes. C'est aussi, bien sûr, l'avis du porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, qui a estimé ce matin que la frappe américaine éloigner la communauté internationale de l'objectif final de la lutte contre le terrorisme international. C'est un argument, Arnaud Dubien, qui trouve donc un véritable écho. On est quelques jours après l'attentat de Saint-Pétersbourg.
Oui, de toute façon, la Russie ne peut pas approuver ni se taire. Donc la première réaction est, pour le coup, parfaitement prévisible. Ce qu'il faudra voir, c'est la suite. D'abord, est-ce qu'il y a d'autres frappes ou pas, américaines ? Et comment évolue le dialogue russo-américain sur la Syrie ? Je rappelle que, jusqu'à une date récente, beaucoup autour de M. Trump, autour de M. Poutine, pensaient que les lignes pourraient bouger, comme on dit, en particulier sur une possible collaboration dans l'est de la Syrie pour combattre Daesh. Donc affaire à suivre.
Comment vous envisagez les relations entre Washington et Moscou ? Comment le rapport de force pourrait se modifier ?
Écoutez, on a beaucoup glosé sur Trump, pro-russe, agent de Poutine, et puis on voit maintenant que Trump, peut-être sous l'effet des médias ou de l'establishment à Washington, adopte des positions un peu plus traditionnelles sur la Russie. Il y aura un premier contact, vraisemblablement en marge du G20 d'Hambourg en juillet. Je ne pense pas intuitivement, mais je ne suis pas un spécialiste des États-Unis, que Trump fera ou ce que Mme Clinton aurait pu faire sur la question russe. Je pense qu'il y aura une tentative de part et d'autre de faire bouger ces lignes, de voir sur quel dossier, de façon réaliste, peut-être cynique, la Russie, entre grandes puissances, la Russie et les États-Unis peuvent s'entendre. Il y a, au-delà de la Syrie, un dossier qui inquiète beaucoup les deux pays, c'est la Corée du Nord. Je rappelle que la Russie a une frontière avec ce pays. Il y a peut-être certains dossiers sur lesquels, de façon pragmatique, Russes et Américains peuvent s'entendre.
Il y a encore une semaine, Donald Trump semblait prêt à s'accommoder d'un maintien de Bachar el-Assad. Mais hier soir, il a déclaré donc avec les actes qu'il a perpétrés, il semblerait qu'il n'ait aucun rôle pour gouverner la Syrie. Là encore, on a l'impression d'une politique de Trump assez difficile à cerner. Marc Semo.
Oui, il y a une politique de Donald Trump assez difficile à cerner. D'une certaine façon, Trump revient sur les positions qui étaient celles de nombreux pays occidentaux. D'une certaine façon, on pourrait même dire que là-dessus, il se range à la position française qui n'a cessé de répéter qu'en aucun cas Bachar el-Assad, au vu des crimes commis, et ce nouvel emploi de l'arme chimique en est un nouveau, ne peut en aucun cas incarner l'avenir de la Syrie. Et en même temps, il ne faut pas oublier cette dimension essentielle dans son initiative de Donald Trump, qui est montré que lui est la différence d'Obama. Il est capable de prendre des décisions et de mener des frappes. Et c'est une espèce de... Voilà, c'est un signal quand même qui reste extrêmement fort. Et on verra justement qu'est-ce qu'il va en être après.
Un grand merci à tous les trois de nous avoir accompagnés ce matin. Françoise Dossé, directrice d'études à l'EHESS, Arnaud Dubien, directeur de l'Observatoire franco-russe, et bien sûr, Marc Semo, notre partenaire du Monde. Il est 11h53 sur France Culture, l'heure de retrouver Brice Couturier et le Tour du Monde des Idées.
Le Tour du Monde des Idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Tiffaine.
Le glissement de l'électorat traditionnel de la gauche vers les partis populistes, tel qu'on l'a observé en Grande-Bretagne avec le Brexit ou aux États-Unis avec la victoire de Trump sur Hillary Clinton, est-il inexorable ? Comment les partis sociaux-démocrates peuvent-ils espérer enrayer leur déclin ?
Eh bien d'abord, deux résultats électoraux récents en Europe ont semblé marquer un coup d'arrêt à cette hémorragie. D'une part, la présidentielle autrichienne, où le candidat d'extrême droite Norbert Hofer a été finalement battu par un écologiste indépendant, Alexander van der Bellen, par 53% contre 46%. Mais on remarque aussi, à l'occasion de cette élection, l'effondrement du parti social-démocrate SPE, alors qu'il était encore le premier parti du pays aux législatives de 2006. Aux Pays-Bas, un autre coup d'arrêt a été donné cette fois à la montée en puissance du mouvement xénophobe de Geert Wilders. Son parti de la liberté n'a progressé que de 3% depuis 2012. Avec 13% des suffrages, il obtient un score très inférieur à ce que lui promettaient les sondages. Cette maigre progression a été beaucoup commentée, ce qui a éclipsé le beau succès remporté par les écologistes de la gauche verte, les Grünlinks, 9%, et les sociaux-libéraux de D66, 12%, deux partis de gauche pro-européens. Mais là encore, c'est au détriment du parti travailliste qui s'est effondré, tombant à moins de 6%. Il semble que les partis sociaux-démocrates voient partir leurs électeurs, les uns vers de nouveaux partis de gauche, plus sensibles aux thèmes environnementaux et à l'obtention de droits nouveaux ou de nouvelles libertés, les autres vers la droite nationaliste. Partout, les sociaux-démocrates sont pris entre deux feux, commente Ben Collymore, un jeune politologue. Les travaillistes néerlandais, qui tournaient habituellement autour du quart des votes, ont été obligés de gouverner en coalition avec les partis de droite et du centre, puisque le système électoral local est proportionnel. D'où une certaine usure du pouvoir. Et leur électorat éclate, comme on l'a vu dans de nombreux autres pays européens, selon le même clivage. Le vote ouvrier est blanc, passe à l'extrême droite, du côté de Wilders, la classe moyenne éduquée et libérale les quitte pour la gauche verte ou les sociaux-libéraux. Les électeurs des minorités ethniques eux-mêmes ne les soutiennent guère. Dans certaines grandes villes comme à Rotterdam, ils ont créé leur propre parti, comme les Turcs avec Denk. Et Ben Collymore fait une comparaison avec la situation grecque. C'est la décision de soutenir un gouvernement de droite qui a provoqué l'effondrement du PASOK. Les électeurs de gauche ne lui ont pas pardonné et se sont retrouvés en masse derrière Syriza. En Espagne aussi, le PSOE est en pleine déconfiture. Il n'y a plus guère qu'en Allemagne que le SPD résiste bien, malgré son association avec la droite au pouvoir. Mais c'est un cas assez unique. Le parti de la gauche radicale, des Linke, n'est jamais parvenu à inquiéter le SPD.
Les sociodémocrates auraient-ils mal saisi les évolutions de la société, Brice ? Ça expliquerait leur usure électorale ?
Oui, oui, Tiffen, c'est la thèse défendue par de nombreux analystes. Paul Mason l'a illustré dans The Guardian. « La social-démocratie paraît privée des ressources nécessaires à son redressement », écrit-il. Pourtant, dans les années 80, elle avait su trouver une nouvelle fonction et s'adapter à un nouvel électorat. De parti de protection de la classe ouvrière qu'elle avait été traditionnellement, elle était devenue le parti, je cite, « qui réglemente le capitalisme dans son propre intérêt ». Mais elle n'a pas su comprendre ni maîtriser le tournant pris par ce capitalisme durant la fin du XXe siècle. L'économiste turco-américain Danny Roderick estime ainsi, je cite, que le principe de la libre circulation des capitaux, notamment à court terme, adopté en tant que norme par l'UE, l'OCDE et le FMI, a sans doute été, je cite, la décision la plus catastrophique pour l'économie mondiale depuis des décennies. Or, poursuit-il, il a été pensé et mis en œuvre non par des idéologues libéraux, mais bien par des technocrates français proches du Parti socialiste. Jacques Delors à la Commission européenne et Henri Chavransky à l'OCDE. Idem aux États-Unis où ce sont des technocrates proches du Parti démocrate, comme Lawrence Summers, qui se sont fait, je cite, les héros de la dérégulation financière. Pas étonnant que les électorats se vengent sur la gauche de décisions dont les conséquences incombent aux siens. Deuxième cause de la désaffection des électeurs pour la gauche, selon Danny Roderick, la question de l'immigration qui, je cite encore, a éclipsé les autres chocs résultant de la mondialisation. Le sentiment d'une menace liée à l'afflux massif d'immigrés et de réfugiés en provenance de pays pauvres et de cultures très différentes creuse la fracture identitaire que les politiciens d'extrême droite savent parfaitement exploiter. En effet, explique Roderick, la révolte populiste contre les élites prend des formes très diverses. Ça peut aller du rejet des partis de gouvernement à l'exigence d'un contrôle démocratique sur les élus, mais la principale, c'est la réaffirmation des identités nationales ou régionales. Or, si les clivages pensés en termes d'identité culturelle ont toujours favorisé la droite, les oppositions formulées en termes de classe sociale, elles, favorisent, on le sait bien, la gauche. La mondialisation a provoqué deux effets majeurs, de fortes inégalités et l'éclatement des sociétés en inclus et précaires, d'une part, et la montée des sentiments d'appartenance identitaire, de l'autre. Eh bien, la malchance de la gauche, c'est que c'est la seconde qui prédomine dans l'esprit des électeurs et que jusqu'à présent, la gauche n'a pas su y répondre de manière appropriée.
Merci beaucoup Brice, je rappelle qu'on peut réécouter votre chronique en podcast et sur franceculture.fr. Un grand merci à toute l'équipe de Culture Monde, c'est la fin de cette émission. Clémence Alzard, Samuel Bernard, Violette Voldoir, Caroline Bonin, à la réalisation Alexandre Fougeron et à la technique Jacques Azubert.